195 pays représentés dans cet hémicycle. Des émissaires du monde entier venus écouter religieusement les conclusions des experts de l'ONU sur le climat. Pendant près d'une semaine, ils ont épluché un rapport de 1200 pages à la conclusion alarmante.
Oui, nous, les êtres humains, nous exploitons 70% des terres disponibles sur la planète. Notre façon de produire notre alimentation et notre façon de nous nourrir contribue à la dégradation des écosystèmes naturels et au déclin de la biodiversité.
Pour le GIEC, notre agriculture est responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Face à cette situation, les défenseurs de l'environnement appellent à une révolution dans nos assiettes.
Changer notre façon de nous nourrir en optant pour des régimes avec moins de viande et davantage de légumes est une recommandation phare. Cela permettra non seulement de libérer des terres pour nourrir plus de personnes sur la planète, mais aussi, et c'est très important, cela va libérer de l'espace qui permettrait une reforestation et une meilleure protection de l'écosystème.
À lire les conclusions des experts du GIEC, l'agriculture semble être à la fois le problème mais aussi la solution. En optant pour des cultures moins intensives et moins tournées vers la production de viande, les agriculteurs pourraient changer la donne.
Les agriculteurs peuvent contribuer à atténuer le réchauffement climatique. Les plantes interceptent le carbone du gaz carbonique, libèrent l'oxygène pour les poumons. Et la paille, les racines peuvent se décomposer et ça séquestre du carbone dans l'humus des sols. Ça peut aussi contribuer à atténuer ce réchauffement climatique.
Comment, dans l'urgence, peut-on changer de modèle agricole ? Alors que la population mondiale devrait atteindre près de 10 milliards d'habitants en 2050, va-t-on vers des famines accrues ? Sommes-nous prêts, nous consommateurs, à changer nos habitudes alimentaires ? Demain, devrons-nous être tous végétariens ?
3 générations pour apprendre aux gens à consommer sans modération. Faudra-t-il 3 générations pour les sevrer ? Arnaud Goffier, c'est vrai qu'on a l'impression que là, on doit absolument bouleverser, là, maintenant, tout de suite, notre façon de nous nourrir. Est-ce que l'urgence, elle est vraiment là, sous peine d'aller droit à la catastrophe ?
Oui, l'urgence, elle est là, ça a été dit par l'intervenante du GIEC hein, dans le reportage précédent. Tout est une question de choix, en fait. À quoi on va utiliser les terres émergées ? Est-ce qu'on va les utiliser à nourrir plus d'habitants, en leur donnant par exemple beaucoup plus de viande, auquel cas il nous faudra encore plus de terres, et où est-ce qu'on va les utiliser à stocker du carbone un petit peu pour atténuer le changement climatique. Et la question c'est, voilà, quel choix s'offre à nous, et ces choix sont absolument urgents si on souhaite diminuer, si on souhaite limiter le réchauffement climatique, le changement climatique. Et ce qu'il y a derrière ces choix, c'est notre modèle de consommation alimentaire et le modèle de production agricole associé.
Alors justement, l'alimentation, Guillaume, c'est votre chiffre du jour.
Oui, le chiffre du jour, c'est 25, ou plus exactement 25 à 30%. C'est la fourchette que donne le GIEC. C'est la part du total des gaz à effet de serre mondiaux qui sont émis par ce que le GIEC appelle le système alimentaire, c'est-à-dire pas seulement l'agriculture, mais aussi le stockage, le transport, la consommation des produits alimentaires et le gaspillage. Un chiffre à mettre en rapport avec le transport aérien qui, lui, n'est responsable que de, entre guillemets, 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Étienne Ganduron, vous êtes surpris par ce chiffre, par l'importance ou l'impact de l'agriculture d'aujourd'hui sur le réchauffement climatique?
Non, on n'est pas surpris parce que déjà, même si le rapport du GIEC confirme beaucoup de choses, on a une partie des éléments depuis longtemps à notre connaissance. On est un peu surpris par la rapidité des événements hein, qui dépassent beaucoup de prévisions. Les deux aspects, le réchauffement mais aussi le dérèglement, c'est-à-dire qu'on a aussi des impacts localisés beaucoup plus durs qu'avant, c'est-à-dire que des tempêtes, des averses qui tombent plus fortement qu'avant. Donc c'est un peu compliqué à gérer, mais c'est aussi normal puisque l'activité alimentaire, en fait, c'est une des seules activités que chaque homme et chaque femme sur cette planète pratique 1 à 2 fois par jour pour ceux qui ont de la chance. Il y en a aussi qui en ont pas beaucoup. Donc c'est aussi normal que ça génère. La grosse différence avec les autres secteurs d'activité, ça a été dit d'ailleurs dans la présentation vidéo qui a été faite, notamment par Marc Dufumier, c'est que c'est une activité, une des rares, qui capte du carbone. C'est-à-dire qu'elle en émet, mais elle en capte aussi beaucoup, puisque par exemple en France, on a 12 millions d'hectares de prairies permanentes et de parcours montagneux. C'est la production agricole, les surfaces agricoles, qui captent le plus de carbone. Vous parlez du transport aérien, ils ne font qu'émettre. Tous les transports, toutes les autres activités humaines, Il n'y a que trois activités, enfin, il y a la forêt, les productions végétales et les océans qui captent du carbone. Le reste ne fait que émettre. Alors, donc, ça a été dit, l'agriculture, c'est aussi une solution. Alors, il faut améliorer plein de choses, mais c'est aussi une solution.
On va en parler, on va voir comme ça, mais Emmanuel Riboud, c'est vrai qu'on a l'impression, là, quand on lit ce rapport du GIEC, qu'on découvre véritablement la chose. C'est-à-dire que d'un coup, ça nous tombe comme ça sur les bras. D'un coup, on ne pouvait pas l'imaginer, on ne pouvait pas l'anticiper.
Je ne sais pas si on ne pouvait pas l'anticiper. Les travaux scientifiques ont quand même démontré tout ça depuis très très longtemps. Nous, ça fait 3 ans à Ressources qu'on a revisité totalement notre métier. Le choc de l'avancée de la crise climatique, moi, à un moment donné, m'a posé la question suivante, c'est mais qu'est-ce que je peux faire ? On demande beaucoup au monde paysan, on leur demande une refonte totale de leur façon de faire. Je me suis dit, moi, dans mon métier, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis chef de cuisine, comment est-ce que je peux refonder mon métier ? On se situe maintenant comme un maillon d'une chaîne vertueuse vers les mangeurs. Nous, ce qu'on sait faire, c'est transformer, cuisiner, vous faire à manger. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux d'une façon cruciale. Tout le monde a besoin d'eux. Donc nous, à Ressources, on se positionne comme ça.
Gauffier, c'est vrai que l'agriculture française, c'est plutôt une bonne élève, on va dire.
Ce qui est certain, c'est que l'agriculture française, oui, elle est saine. On n'a pas de problème de sécurité sanitaire des aliments depuis plusieurs décennies maintenant. Pas de problème majeur. Il y a des crises, il y a des scandales, la viande de cheval, etc. Mais il n'y a pas de problème dramatique en termes de sécurité sanitaire des aliments. En revanche, on a un problème en France qui n'est pas forcément lié au changement climatique, qui est plutôt notre dépendance aux produits phytosanitaires, donc aux pesticides. S'il y a un souci, il est là et il est sur la biodiversité. Après, sur le changement climatique, l'agriculture française, le secteur agricole, émet quand même 20% des gaz à effet de serre de la France, donc de la totalité des gaz à effet de serre de la France, un peu moins que la moyenne mondiale, mais la plupart de ces émissions de gaz à effet de serre viennent du secteur bovin. Donc on est dans la moyenne des émissions mondiales, mais je dirais qu'il faut effectivement distinguer les agricultures mondiales. Le problème actuellement, quand on parle de déforestation, quand on parle de l'emprise de l'agriculture sur les terres, il vient effectivement pas forcément de la France.
Étienne Gagneron, vous êtes éleveur. Comment concrètement vous pouvez faire pour que vos animaux émettent moins de gaz à effet de serre, notamment par le méthane ?
Alors moi, ça me pose vraiment des difficultés parce que je suis en bio depuis 22 ans maintenant. Donc je pensais avoir déjà mis en place beaucoup de pratiques vertueuses. Je ne sais pas trop quoi faire de plus, surtout que je suis sur un système herbager. Et le réchauffement climatique... J'élève des charolais, donc des vaches allaitantes, et je produis de la viande de bœuf que je vends en plus en direct dans un magasin de producteurs. Donc je vais jusqu'au bout de la chaîne. Je vends pratiquement 95% de ma production dans un magasin de producteurs directement à des consommateurs. J'ai réduit tous les circuits. J'ai une ferme qui est pratiquement autonome à 100%. J'achète rien à l'extérieur. Et on n'a pas d'herbe 4 mois dans l'année. Mon système, il est complètement bouleversé, alors que je pensais qu'il était relativement vertueux. Et je vois qu'en fait, il n'est pas si résilient que ça. Donc, en fait, on est tous en ce moment en train de se poser plein de questions. Comment on fait pour faire perdurer notre système ? Comment on garde notre autonomie ? Parce que si on n'a pas d'autonomie, il faut acheter des fourrages à l'extérieur. Acheter des fourrages bio, on n'en trouve pas. Donc, c'est très compliqué.
Et vous, éleveur de charolais, quand on vous dit aujourd'hui, dans le rapport du GIEC, qu'il faut manger vraiment beaucoup, beaucoup moins de viande, 90% même, le chiffre est terrible, hein, soit aux États-Unis ou en Europe, comment vous l'interprétez ?
Moi, je l'interprète assez mal, parce que on l'a dit tout à l'heure, le problème des chiffres du GIEC, ce sont des chiffres internationaux, donc qui prennent notamment les grands producteurs mondiaux que sont le Brésil, l'Argentine et les États-Unis, qui ont des pratiques complètement différentes des nôtres, avec des feedlots, donc des animaux qui sont concentrés sur quelques hectares et qui ne sortent jamais à l'extérieur dans des pâtures. Nous, on n'a qu'une agriculture de pâture, hein, je disais, plus de 12 millions d'hectares de prairies, donc l'occupation du territoire, la captation du carbone. Donc dire arrêter de manger du bœuf en France, c'est carrément dire accélérer le réchauffement climatique. On peut manger un peu moins, on peut en manger mieux, on peut réduire les importations, mais de la viande au local, c'est de la viande qui aménage le territoire. Et puis en plus, c'est un élément qu'on n'évoque jamais, mais le gros avantage de la viande, c'est que c'est un produit brut par nature, donc c'est pas du tout transformé. C'est très, très pur, très sain à manger. Donc moi, je dis, mangez-en moins. On peut être flexitarien, ça pose pas de problème, mais arrêtez de manger de la viande.
Flexitarien, je vais t'expliquer, c'est un nouveau terme hein, aussi, hein, voilà. Qui vient de sortir quand même, qui est assez particulier. Avant, on disait omnivore, maintenant flexitarien, en fait. C'est un peu ça.
Oui, on mange de tout, c'est ce qu'on faisait avant, mais c'est une manière plus moderne de le dire, mais ça nous va pas mal. Hein. Je crois que ça a toujours été le cas, mais il faut le redire. C'est pas manger de la viande pour manger de la viande. Je crois que en viande bovine hors volaille, en France, on est à 370 grammes par semaine. La norme OMS, c'est 500 grammes. Donc on est largement en dessous.
Voilà, moi ça me fait mal quand on dit ça, qu'on va, et je suis surtout très agacé sur l'hypocrisie du citoyen moyen qui dit pour sauver la planète, je vais arrêter de manger de la viande.
On va en parler de ça, Guillaume.
Oui, Arnaud Gauffier, quand vous entendez un témoignage comme ça, quand même d'un éleveur qui est exemplaire dans ses pratiques, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus?
Je peux lui dire qu'il faut absolument encourager ce type d'élevage. Et encourager
que les autres éleveurs lui ressemblent, c'est ça?
Bien sûr, et ça signifie d'ailleurs, si les autres éleveurs
disent manger de la viande,
il faudra manger beaucoup moins de viande. Parce que nous pourrons beaucoup moins en produire. Ce sont des élevages qui nécessitent un peu plus d'espace que d'autres élevages intensifs, mais qui ont un impact moindre via les prairies. On stocke du carbone, effectivement. On n'importe pas des aliments qui viennent de l'autre bout de la planète, du soja, pour nourrir des vaches laitières qui sont produites en stabulation de manière intensive. Quand on dit manger moins de viande et manger de la meilleure viande, c'est typiquement ce modèle qu'on vise. Derrière, il ne faut non plus pas se voiler la face. En France, nous avons aussi l'élevage allaitant, l'élevage de vaches, de vaches à viande constitue une petite partie, la moitié de la viande de bœuf consommée en France. L'autre moitié, c'est de l'élevage laitier. Et là, les tendances sont inverses. On est vers une augmentation, une explosion de la taille des élevages qui sont de plus en plus dépendants aux importations de soja, des vaches qui vont de moins en moins à l'extérieur. Et là, malheureusement, c'est ce type de viande qu'il faut diminuer.
Alors tout de même, si on souhaite continuer à manger de la viande, Sonia, vous avez une solution, hein, c'est la viande de synthèse conçue au laboratoire.
Oui, un bon pavé de steak cellulaire, ça vous dit. Il va falloir s'y préparer, hein, car elle pourrait arriver bientôt dans nos assiettes. Une trentaine de start-up, principalement dans la Silicon Valley, mais aussi en Europe et en Israël, y travaillent et savent fabriquer aujourd'hui des steaks hachés, des boulettes, des nuggets de poulet, des saucisses et même du poisson à partir de cellules souches animales. Ces cellules sont prélevées sur des animaux vivants puis cultivées dans des cuves stériles afin qu'elles se reproduisent jusqu'à former de la viande artificielle. En gros, les industriels de la viande eux-mêmes commencent à investir dans cette technique qui présente bien des avantages. La promesse d'une viande facilement traçable, peu consommatrice en terre et en eau, forcément offrant une meilleure sécurité alimentaire et sans aucune émission de méthane. La recherche a effectué ces dernières années de grandes avancées en termes de qualité et de prix. En 2013, une start-up des Pays-Bas avait présenté la pièce de boucherie la plus chère de l'histoire. 290 000 euros, vous vous en souvenez, pour ce prototype de steak moléculaire. Elle a depuis fait fondre ses coûts de production puisqu'elle espère commercialiser aujourd'hui son premier steak haché de synthèse pour 10 euros dès 2021. Une start-up israélienne travaille aussi et arrive à produire de vrais morceaux de muscles de viande. Là, alors c'est un peu plus cher, une cinquantaine d'euros pièce. On nous annonce aussi le premier foie gras artificiel pour Noël, un nouveau sujet de conversation autour de la table. Ça pose évidemment énormément de questions, dont des questions éthiques autour de la manipulation des cellules, l'utilisation de protéines génétiquement modifiées. Emmanuel Riboud, la viande de synthèse, l'agriculture cellulaire, c'est l'avenir de nos assiettes?
Ah là, moi, ça ne me donne pas du tout
envie de cuisiner,
là, complètement. Ce que je trouve, j'ai l'impression, moi, que ça vient répondre à nous permettre de continuer à faire ce qu'on fait. Et j'ai l'impression, moi, plutôt que dans la transition écologique sur laquelle on est en train de travailler, revisiter ces postures, ces métiers, comme nous, on a fait donc, à Ressources, où on végétalise notre carte, pour continuer à préserver de la viande de qualité. Donc on fait sans aucun complexe, on fait une mayonnaise végane sans œufs qu'on associe à un rôti de bœuf cuit basse température qui est avec une belle marinade à la muscade. Et en fait, on végétalise l'ensemble de la carte pour réserver le beurre et les produits laitiers. Donc tout à l'heure, on relevait que c'était aussi une grande source de gaz à effet de serre pour toutes les vaches allaitantes. Donc le beurre, la crème, le lait sont concernés. Hein, c'est pas que le bœuf. Et donc on crée soit des crèmes lactées avec du millet, on fait des risottos hyper délicieux, super coulants.
Mais alors, juste une chose, Emmanuel Riboud, c'est quand même, nous sommes dans un pays, la France, où il y a une vraie culture gastronomique. Est-ce que quand vous parlez à des collègues de votre profession, est-ce qu'ils font le même effort que vous? Est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller vers moins de viande, à végétaliser, comme vous dites, leur carte? Vous sentez une tendance ou pas aujourd'hui?
Alors, la tendance, on la sent avec les consommateurs qui, eux, sont demandeurs. Et moi, je les trouve partie prenante. Notre équipe de cuisine est pratiquement en direct avec les urbains puisqu'on n'a pas de... On est en...